Bonsoir à toutes, nos excuses avec le retard, pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont appelé la RDC à démontrer sa capacité à défendre les droits humains sur son territoire avant de prétendre donner l'exemple à l'échelle internationale. L'appel a été lancé à l'occasion de la commémoration le 10 décembre dernier du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce collectif dresse un bilan sombre des violations des libertés, des droits fondamentaux des citoyens, notamment des enlèvements, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture physique et morale, la répression des manifestations pacifiques et tant d'autres abus. Pour rappel, la RDC a été élue mercredi 9 octobre membre du Conseil des droits de l'homme lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement a souligné que cette élection est une preuve de l'engagement de la RDC envers la promotion et la défense des droits humains. Quelle situation, des droits de l'homme depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC? Nous en parlons avec Madame Chantal Chambou-Mwavita. Elle est ministre des droits humains du gouvernement central. Madame la ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très très nombreux, auditrices, auditeurs de Radio Capi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrick Mbouli Kitanga qui intervient depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je crois que la situation des droits humains en RDC n'est pas aussi mauvaise que l'on pense, et cela comparativement à une décennie en arrière. Et ces ONG ne doivent pas oublier l'histoire récente de la RDC. Elles n'ont qu'à regarder les réseaux sociaux, elles n'ont qu'à suivre les médias audiovisuels. Et les tableaux présentés par ces organisations ne reflètent pas la réalité, et il est sans fondement et basé sur les dires de l'opposition. Robert Bahomé depuis Bukavu, Sud Kivu. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, la situation de droits de l'homme laisse à désirer. C'est vraiment curieux de vivre une telle situation avec le régime actuel, alors que quand ce dernier était dans l'opposition, il déclarait qu'une fois au pouvoir, il améliorerait la situation des droits de l'homme en RDC. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Alors, je vous dis encore une fois bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame la ministre. Je rappelle que vous êtes ministre des droits humains du gouvernement central. De quoi ou quel est le rôle de votre ministère, Madame Chantal Chambou?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Le ministre des droits humains en République démocratique du Congo a pour une mission principale de promouvoir, protéger et garantir les droits humains à travers l'étendue du pays. Le ministre des droits humains joue un rôle de syndicat des citoyens congolais au sein du gouvernement. Ma responsabilité en tant que ministre des droits humains est de sensibilisation et éducation aux droits humains. Le ministère mène des campagnes pour sensibiliser la population à ses droits fondamentaux et à ses responsabilités. Par exemple, ce mois de décembre, le ministère organise une activité sur toute l'étendue du pays. On a des activités éducatives dans toutes les provinces, dans le cadre de la promotion et la défense des droits humains. Nous avons le rôle de surveillance et rapportage des violations. Nous surveillons la situation des droits humains et documentons les violations, y compris les abus commis par les forces de l'ordre ou les groupes armés. Le ministère travaille également avec des organisations internationales pour dénoncer les violations et chercher les solutions. Nous sommes des conseillers du gouvernement sur les politiques et les réformes à adopter pour garantir le respect des droits humains dans les lois et les pratiques nationales. Le ministère aide les victimes des violations des droits humains à accéder à la justice. Cela inclut le soutien juridique et la mise en place des mécanismes de réparation. Nous collaborons avec des ONG locales et internationales ainsi qu'avec les agences de l'ONU pour mettre en œuvre des projets de protection et de promotion des droits humains. Nous développons des stratégies pour protéger des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les peuples autochtones et les minorités. Le ministère veille à ce que la RDC respecte ses engagements en matière de droits humains, telles que les conventions internationales et régionales ratifiées. Par exemple, en 2024, le ministère a mis en avant-plan le terme « la sacralité de la vie humaine » et la paix sociale. Pendant ce mois de décembre, nos efforts visent à renforcer la culture du respect des droits dans un contexte de défis sécuritaires et économiques. Notre rôle est essentiel, madame, pour renforcer l'état des droits, améliorer la gouvernance et promouvoir un développement inclusif en République démocratique du Congo.
Alors, vous avez suivi ces ONG de défense de droits de l'homme qui a appelé la RDC à démontrer sa capacité à défendre les droits humains sur son territoire avant de prétendre donner l'exemple à l'échelle internationale. Ce collectif dresse un tableau sombre des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens, notamment des enlèvements, des arrestations, des détentions arbitraires, des cas de torture. Alors, Madame la Ministre, pourriez-vous nous dresser un tableau général de la situation des droits de l'homme en RDC aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'état des droits humains en République démocratique du Congo est sérieusement préoccupant. Malgré certains efforts du gouvernement et de la communauté internationale, la situation reste marquée par des conflits armés persistants, des abus systématiques, violations massives dans l'est de la RDC. Les provinces comme le Nord Kivu, Ituri, le Sud Kivu sont les plus touchées par les violences perpétrées par les groupes armés. Ces violences incluent des exécutions sommaires, des violences sexuelles et le recrutement forcé d'enfants. Entre octobre 2023 et mars 2024, plus de 2100 violations des droits humains ont été enregistrées, dont 59 attribuées à des groupes armés. 59%, je veux dire. Les conditions carcérales sont également difficiles à cause de la surpopulation, d'où la politique de désengorgement aujourd'hui.
Alors, est-ce que depuis que, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est vrai que vous parlez, vous dites que la situation est préoccupante, donc il n'y a pas eu des progrès réalisés pendant tout le temps que le président Félix Tshisekedi est aux affaires.
Il y a des avancées depuis que le président, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, a pris son mandat, il a mis au sein de son champ de bataille les droits humains, la protection des citoyens congolais, la restauration de la dignité des peuples congolais. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de la dignité pendant qu'on est dans la pauvreté, pendant qu'on est dans la guerre. Cette guerre nous est imposée par les Rwandais. Cette guerre qui a salue les Congolais, des violations majeures, des tueries, des violences, des viols. Même tout ce qu'on fait, les efforts qu'on est en train de mener, on n'arrive pas à les voir parce qu'il y a nos terres qui sont déjà prises en otage par les rebelles, par les pays voisins. On ne peut pas dire que nous n'avons pas avancé parce qu'il y a des énormes avancées dans ces chemins-là vers la restauration de la paix.
Alors, selon vous, Madame la Ministre, la plupart ou la majorité des violations des droits humains se font dans les localités ou les villes occupées par les rebelles?
Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de personnes déplacées à cause de ces conflits. C'est difficile d'accéder là où il y a les rebelles. Nous sommes en train de nous défendre sur des fronts. la défensive et la défensive au front et la diplomatie. Et nous espérons que nous allons obtenir gain de cause.
Alors, quelles sont les principales violations, violations de droits de l'homme qui préoccupent le plus votre ministère?
Vous savez, madame, toute violation nous préoccupe. En tant que ministre des droits humains, la restauration de la dignité dit tout simplement que les Congolais doivent avoir accès à l'eau, accès à l'électricité, au logement, au travail décent. Il doit vivre dignement comme un être humain et pas dans la pauvreté et dans la misère.
Alors, au niveau de votre ministère, quelles sont les actions, les mesures concrètes que vous mettez en œuvre pour promouvoir et protéger les droits de l'homme?
Aujourd'hui, madame, je dois vous dire que le ministère des droits de l'homme a toujours été souvent oublié, et lorsque on pensait à ce ministère, il était fusionné par le ministère de la Justice. Nous sommes en train de redynamiser notre ministère et l'implanter partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo pour avoir accès à des monitorings journaliers afin de pouvoir avoir des informations à chaque fois qu'il y a une violation ou un abus commis quelque part.
Donc vous êtes sur le monitoring actuellement.
Oui.
Vous basez des monitorings pour comptabiliser les différentes violations de droits de l'homme.
Oui, nous travaillons avec les défenseurs des droits humains. Nous travaillons aussi, je viens de vous le dire, avec la communauté internationale, nos partenaires. Et c'est comme ça que nous pouvons obtenir des informations. Et nous avons aussi sur terrain nos membres de cellules qui vont dans des... Par exemple, dans les sites de déplacés, nous faisons des enquêtes sociales pour voir dans les quartiers s'il y a l'eau, s'il y a l'électricité, s'il n'y a pas, pourquoi, et si il y a un problème. Notre rôle, c'est d'aller vers au sein du gouvernement pour défendre la cause des Congolais.
Est-ce que cette méthode est efficace, Madame la Ministre?
Oui, madame, mais l'enquête sociale est très efficace parce que c'est à partir de cela que nous avons toutes les informations possibles et en collaboration avec les défenseurs des droits de l'homme et donc la société civile, nous sommes au courant de ce qui se passe du jour au jour en République démocratique du Congo. Ce que vous devez savoir, c'est que nous venons d'hériter d'un gouvernement qui a trouvé un pays qui était déjà vraiment isolé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous venons de l'hériter. Nous sommes en train de nous battre sur la défensive, c'est-à-dire arrêter la guerre, panser les plaies et fermer les bornes pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Nous ne sommes pas ce gouvernement qui a trouvé la paix et qui doit juste jouir. Non, nous sommes des warriors. Nous sommes en train de nous battre sur plusieurs fronts.
Alors, quelles sont les difficultés ou les obstacles que vous rencontrez avec cette méthode que vous utilisez pour recenser les différentes violations de droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez?
Oui, madame. Les obstacles, c'est par rapport aux endroits que nous ne contrôlons pas. Par exemple, à l'Est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas accès, par exemple, à Kishishe, nous n'avons pas accès à Rutshuru, nous n'avons pas accès... Donc là où il y a les rebelles, nous n'avons pas accès et nous ne pouvons pas agir. Mais nous dénonçons tous ces abus.
Alors, les abus sont aussi constatés selon plusieurs observateurs et même ONG au sein de nos forces armées. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, Madame la Ministre?
À chaque fois qu'il y a une information de ce genre, nous rappelons et les responsables à l'ordre. Quand j'ai commencé cette émission, je vous ai dit que mon rôle est, je suis le syndicat des peuples congolais. Quand il y a une information, je dois amener ça au sein du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution.
Alors, vous avez parlé des collaborations avec la société civile, les ONG. Est-ce que ça se passe bien entre vous et la société civile,
bien sûr, les ONG? Bien sûr, madame, ça se passe très bien jusque-là. parce que les chefs de l'État avaient signé une ordonnance qui donne l'obligation à la protection des défenseurs des droits humains. Ils sont protégés aujourd'hui par une loi. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Le président est très regardant. Quand il y a quelque chose contre un défenseur des droits humains, qui est dans ses droits de dénoncer, d'éclairer la lanterne du gouvernement, on ne peut pas l'arrêter. Et s'il arrivait qu'il est arrêté et que nous avons l'information, nous allons les faire libérer.
Alors, il y a ce collectif des ONG, hein, de défense des droits de l'homme, qui dresse un tableau sombre des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens. On parle notamment des enlèvements, des arrestations, détentions arbitraires, des cas de torture physique et morale, la répression des manifestations pacifiques et tant d'autres abus. Madame la ministre, comment vous répondez à ce collectif qui est sur terrain, qui mène des enquêtes?
Nous demandons à ce collectif de se joindre à nous, de nous informer. Ça ne sert à rien de critiquer avant de venir vers les gouvernements pour dénoncer. Nous avons besoin, en tant que partenaires de la société civile, nous avons besoin qu'ils puissent venir vers nous dénoncer tout ce qu'ils ont vu comme abus. Parce que nous, nous les faisons avec nos équipes, mais eux, ce sont nos partenaires, nos premiers partenaires. S'ils ont une information de ce genre, c'est mieux de venir vers nous et nous allons les traiter.
Tout à l'heure, dans votre introduction, Madame la Ministre, vous avez rappelé hein, que vous travaillez avec la communauté ou les organisations internationales. Quels sont les partenaires clés de votre ministère dans ce domaine?
Tous les partenaires, il y a la MONUSCO, il y a les bureaux conjoints des Nations Unies et disons, la MONUSCO et les partenaires, oui, la MONUSCO et les bureaux conjoints.
Alors, vous échangez souvent des informations sur les différents rapports de droits de l'homme en RDC.
Bien sûr, madame.
Alors, les auditeurs, je voulais dire, ont aussi envie de vous poser des questions par rapport à votre ministère. On va aller à Bounia, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet auditeur.
Allô, c'est Pierre Merveille, je vous appelle à partir de Bounia, en Ituri. Madame la ministre, merci pour votre présence ce soir. Votre secteur joue un rôle important dans notre pays. Les citoyens congolais aspirent à vivre dans un pays où leurs droits sont respectés. Nous espérons que vous pourrez nous éclairer sur les mesures que le gouvernement mettra en œuvre pour répondre aux attentes de la population et garantir un avenir meilleur pour tous. Permettez-moi d'aborder avec vous trois préoccupations qui me tiennent à cœur. La première, quelles mesures concrètes le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour garantir le respect des droits de tous et punir les responsables des violations? La deuxième, comment le gouvernement envisage-t-il de protéger les défenseurs des droits de l'homme? La troisième et la dernière, quelles actions spécifiques seront menées pour lutter contre l'impunité et garantir l'accès à la justice pour toutes les victimes des violations des droits de l'homme?
Alors, c'était là l'auditeur Allons-y, Merveille, qui nous a appelé depuis Bounia. Je peux reprendre pour vous la première question, Madame la Ministre. Il veut savoir quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement compte mettre en œuvre pour garantir le respect des droits de tous et punir les responsables des violations.
Pour le moment, nous sommes en train d'implémenter la justice transitionnelle. Vous savez, madame, la justice transitionnelle en République démocratique du Congo vise à répondre aux graves violations des droits humains, instaurer une paix durable après des décennies de conflits. Ce processus repose sur quatre piliers principaux. Vérité et réconciliation, la mise en place des commissions au niveau national et provincial pour établir la vérité sur les atrocités passées. Poursuite judiciaire. Création des chambres mixtes pour traiter des crimes graves, y compris ceux documentés par les rapports mapping. Réparation, c'est adopter une mise en œuvre des lois pour indemniser les victimes de violences. Garantie des non-répétitions. Réforme institutionnelle et mécanismes de vérification pour éviter que les mêmes abus ne puissent plus se reproduire.
Alors,
comment vous faites pour punir les responsables des violations? Quelles sont les actions, les mesures concrètes?
Pour le moment, ils sont condamnés, on les amène devant les juges. C'est tout ce qu'on peut faire quand une personne a commis une faute, une infraction ou une faute, je peux dire. Le seul moyen démocratique de pouvoir établir sa culpabilité, c'est de l'amener devant les juges.
Alors, vous avez parlé de votre collaboration avec la société civile. Ils demandent quelles sont les mesures que vous mettez en place pour renforcer la confiance avec la société civile.
Comme je viens de vous le dire, madame, vous savez, il y a une loi. Une loi que le président a signée, c'est une mesure qui protège les défenseurs des droits humains. Et j'ai signé un arrêté pour les mesures d'application de cette loi.
Alors, et à sa troisième question, on va continuer avec les questions. Ce sont les Congolais qui sont nombreux à poser des questions. Comment le gouvernement envisage-t-il de protéger les défenseurs des droits de l'homme? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Quelle action spécifique vous menez pour lutter contre l'impunité et garantir l'accès à la justice pour toutes les victimes des violations des droits de l'homme?
Là, c'est une question qui revient trois fois. Je l'ai déjà dit. Par rapport au mécanisme mis en place, nous sommes en train d'implémenter la justice transitionnelle. Mais pour maintenant, quand il y a des violations graves, on amène la personne devant les juges.
Madame la ministre, on va parler des violences sexuelles. On en parle de plus en plus en RDC. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites du côté du ministère pour lutter contre les violences sexuelles, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants?
Pour le moment, nous sommes en train de sensibiliser. Nous sommes en train de sensibiliser. Ce mois de décembre, nous avons décréter ce mois, le mois des droits humains. Nous avons mis en exergue la sacralité de la vie humaine. La sacralité de la vie humaine pour dire que la vie est sacrée. Nul n'a le droit de ôter la vie à une autre personne. Aucun individu n'a le droit de ôter la vie à un autre individu. Nul n'a le droit de vivre dans des situations inhumaines. Nul n'a le droit de traiter ou d'être traité d'une façon dégradante. Nous sommes en train de sensibiliser tout le monde. Et lorsqu'il y a des violations, comme je l'ai dit, ça sera la quatrième fois, nous sanctionnons tous les abus commis envers les femmes, les enfants, envers tout le monde, parce que chaque personne, chaque individu a droit à être bien traité. Et personne n'a le droit de faire du mal à l'autre. Et ça, ce n'est pas au pays de Tshisekedi où on laisse faire les gens. Nous avons les juges, nous avons les cours et tribunaux pour établir la culpabilité de tout un chacun. Et donner la confiance à la population, parce que la justice, avec mon collègue Mutamba, il est vraiment derrière tous ses habits et il ne laisse faire aucune infraction sans être puni.
Alors, est-ce qu'on peut parler, excusez-moi, des droits des enfants? Comment vous protégez? Qu'est-ce que vous faites pour protéger les enfants, par exemple, contre l'exploitation dans les carrés, dans les mines? Quelles actions vous menez?
Pour protéger les enfants, vous savez, madame, la seule chose, c'est d'abord occuper ces enfants, les préparer pour un avenir meilleur. Ce que nous faisons, le chef de l'État a pris la décision de la gratuité de la scolarité pour les enfants. Ça donne l'accès à tout enfant d'aller aux études, d'avoir un choix. Jadis, les enfants pouvaient aller et suivre leurs parents pour travailler, mais aujourd'hui, ils ont la voie facile, aller étudier gratuitement. Voilà ce que nous faisons, madame.
Et pour les enfants qui traînent encore dans les mines?
Nous les sensibilisons, nous sensibilisons leurs parents. Nous leur montrons comment est-ce que la vie et la dignité dépendent de l'éducation de base. Les enfants qui étaient là, c'était les enfants qui accompagnaient leurs... souvent, c'est les enfants qui accompagnaient leurs parents. Mais aujourd'hui, les parents sont sensibilisés. Ils ont compris que les enfants ne doivent pas traîner dans les mines au lieu d'aller aux études.
Alors, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous avez commencé ce travail avant même d'être au gouvernement, madame Chambou. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ou qui vous motive à vous engager dans la défense des droits de l'homme?
Madame, être défenseur des droits de l'homme, c'est un don, je peux dire. Parce que c'est je ne peux pas vous dire que j'avais suivi des formations quand j'étais défenseur des droits de l'homme. J'ai fait la formation après. Certes que j'étais déjà étudiante en droit. J'ai fini et je ne supporte pas les inégalités. Je ne supporte pas l'injustice. Et ça, c'est dans mon sang. Et c'est comme ça que je me suis par après performée. Et quand je faisais mon job, j'ai constaté qu'il me manquait quelque chose. En tant que défenseur judiciaire, j'avais le rôle juste de dénoncer. Je pouvais défendre, oui, mais je me disais, le jour où je serai ministre des droits humains, je ferai les miens. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, me voici ministre des droits humains et j'appelle toujours les défenseurs des droits humains de venir vers nous pour qu'on fasse ce travail ensemble. Dénoncer c'est bien, mais venir vers nous pour qu'ensemble on marche. Dans chaque pays, dans chaque civilisation, il y a toujours des initiatives citoyennes et des initiatives de l'autorité publique. Et souvent, les initiatives de l'autorité publique sont éclairés par les initiatives des citoyens. Voilà, madame.
Alors, depuis que vous êtes au ministère des droits humains, madame Chambou, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme action concrète?
La première chose, c'était de protéger mes semblables, je peux dire, les défenseurs judiciaires, les défenseurs des droits de l'homme. J'ai signé l'arrêté pour les mesures d'application de l'ordonnance que le chef de l'État avait déjà signée. Ça, on a fait. Au niveau international, nous avons travaillé jour et nuit pour que notre pays puisse accéder au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Certes que la voie était déjà ouverte, le chef de l'État avait déjà fait beaucoup, mais moi, en tant que son ministre, des droits humains, je devrais surveiller et veiller. Vous savez, tant que on n'a pas encore compté les voix, personne ne sait s'il a gagné ou pas. Donc, on a fait la campagne pendant ces 3 mois qui suivaient notre dépôt de candidature. C'était le 21 juin. Et grâce à Dieu, voilà, nous sommes aujourd'hui membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où le Congo va pouvoir
Ça rapporte quoi à la RDC, le fait d'être membre du Conseil des droits de l'homme?
Ça rapporte beaucoup, ça, beaucoup d'avantages, madame.
Lesquels, par exemple, madame?
Vous savez, siéger dans une institution aussi internationale des droits humains, nous allons apprendre les mécanismes au niveau international des droits humains. Nous allons nous défendre et défendre d'autres personnes, d'autres pays, parce que là, nous ne sommes pas au niveau national. Nous sommes maintenant au niveau international. Et ça va créer un lien d'amitié entre les Congos qui étaient déjà isolés. Vous savez, madame, il y a des moments où vous allez dans un pays où on vous dit que les Congos, on prenait les Congolais pour des bouffons, pour des gens qui ne connaissent rien, qui ne peuvent rien faire. Et pourtant, aujourd'hui, les gens ont compris que c'était des manipulations, des gens qui voulaient nous éloigner du monde et qui, derrière ça, ils gagnaient au nom du Congo. Donc c'est comme effacer un pays et prendre les drapeaux et vous faire passer comme un Congolais. Aujourd'hui, le Congo est connu grâce à la diplomatie agissante des chefs de l'État et nous sommes en train d'avancer. Certes qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons n'est pas encore visible parce que le pays était vraiment par terre, mais d'ici une année, vous allez voir que le pays a beaucoup avancé.
Alors, il y a un internaute hein, qui nous écrit depuis Bukavu, Jado Igilima, je suis à Bukavu. Je salue la sincérité de Madame la Ministre qui souligne que la situation de droits humains est préoccupante. Mais Madame, pourquoi attribuez-vous tout cela à la guerre? Pensez-vous que les droits humains sont respectés plus à Goma qu'à Bunagana, par exemple? En tant que syndicaliste du peuple auprès du gouvernement, que fait ce dernier lorsque vous lui apportez les cas des violations de droits humains?
Attribuer notre problème à la guerre, c'est certes. Vous savez très bien, madame, que si vous avez un membrane du corps qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Nous sommes en train de nous battre, des violations sont partout, mais c'est pour cela que le ministère des droits humains est là. C'est pour les répertorier, les recenser et les corriger.
On va prendre un autre auditeur qui nous appelle, cette fois-ci de Kinshasa.
Bonsoir Radio Capi, c'est Dédoné Chilombo depuis Kinshasa. Quels mécanismes de suivi et d'évaluation ont été mis en place pour s'assurer que les engagements de la RDT au Conseil des droits de l'homme de l'ONU se traduisent par des actions concrètes sur le terrain? La deuxième question que je vais poser à la ministre, c'est comment le ministère des droits des humains collabore-t-il avec les organisations de la société civile et les ONG pour prévenir les violations des droits fondamentaux et soutenir les victimes?
Madame la ministre.
Nous collaborons de commun accord avec la société civile. Nous avons fait plusieurs fois des rencontres et nous sommes en train de créer des journées interculturelles où les défenseurs des droits humains et nous et nos partenaires puissent se rencontrer une fois par mois pour parler de ce qui nous divise et de ce qui nous fait mal, pour parler de tous les abus qui sont perpétrés à travers les pays.
Alors, quels sont selon vous, Madame la Ministre, les principaux défis à relever pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? Quels sont les défis à relever pour améliorer les droits de l'homme en RDC?
D'abord, il faut que la guerre cesse. Ça, c'est un. Quand bien même les gens pensent que nous attribuons tout à la guerre, il faut que la guerre cesse. Nous devons avoir le contrôle de notre pays. Il y a des financements qui vont vers la guerre au lieu que ça aille vers la construction des routes, au lieu que ça aille vers la construction des maisons, parce qu'il n'y a pas de logement, comme vous le savez, les droits humains, c'est pas toujours, c'est pas seulement les prisons, les guerres et tout, mais pas seulement les prisons, mais il y a aussi la vie, la subsistance de l'être humain. Et tous les moyens sont convergés à 80% vers la défense du pays, parce que aujourd'hui, nous pouvons dire nous allons construire des maisons, mais qui vont être détruites par la guerre. Ça ne dit pas qu'on ne va pas les faire parce qu'on a commencé. Mais vous savez, quand il y a la guerre, il y a rien qui avance.
Mais on dénonce les violations de droits humains presque sur toutes les tendues de la RDC, pas seulement dans les provinces où il y a la guerre. À Kinshasa, on dénombre beaucoup de cas de violations de droits de l'homme, je dirais même presque dans toutes les provinces. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre, Madame la Ministre?
Je viens de vous dire, madame, que la guerre nous prend tout, nous prend la vie, nous prend nos terres, nous prend notre dignité. La guerre nous viole tout, nous vole tout. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la défensive. nous sommes en train de nous défendre. Ici, à Kinshasa, vous avez vu à la prison centrale de Makala, la surpopulation. Nous avons trouvé des prisons qui ont été construites il y a plus de 80 ans. Au moment où Kinshasa était habité peut-être par 100 000 personnes, 200 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 15 millions. Et c'est des problèmes que nous avons trouvés et nous sommes en train de trouver des solutions. À la prison, on a commencé le désengorgement. On a des projets pour construire des nouvelles prisons. Nous sommes en train de construire des écoles sur toute l'étendue du territoire congolais avec les projets des 145 territoires. Tout ça, c'est visible. Chaque fois, le chef de l'État, et chaque mois, il est en train d'inaugurer des infrastructures socio-économiques partout. Mais certes que les gens ne peuvent pas voir les résultats maintenant, parce que le Congo est vaste. Nous sommes plus de 100 millions de personnes. Et c'est difficile de voir aujourd'hui exactement ce que nous avons fait.
Alors, il y a un auditeur qui nous écrit de Goma au Nord Kivu. Vous êtes allé, je crois, plus de deux fois à Goma depuis que vous êtes à la tête du ministère des Droits Humains.
Oui, madame.
Il dit que le gouvernement semble oublier les droits des déplacés qui souffrent aujourd'hui dans les camps et qui subissent l'insupportable. Nonobstant, nous regrettons que jusqu'à présent, le ministère n'a jamais donné le caneva ou la politique qui montre comment le gouvernement accompagne les familles victimes des assassinats ciblés dans les différentes villes. Que fait le ministère des Droits Humains dans la gestion des enfants de la rue qui sèment la terreur à Goma, notamment Ituri, Kinshasa? On va commencer par les déplacés.
Oui, pour les déplacés, par rapport à leur prise en charge, il y a les fonds nationaux les fonds à rêve qui est là pour indemniser les victimes des violences, des guerres. À Goma, c'est établi, ils sont là. Moi, j'étais à Goma, je suis allé enterrer 200 corps des déplacés des guerres. Mais ils sont maintenant là, ils sont vraiment pris en charge, les déplacés.
Mais il nous écrit de c'est Goma, 7 millions. Monsieur. Il dit que les déplacés subissent l'insupportable. Leurs droits ne sont pas respectés.
Leurs droits sont respectés, mais madame, vous savez, c'est des déplacés qui viennent, qui ont quitté leur village, leur toit. Ils vivent dans les tentes. Ça, c'est déjà insupportable. Mais nous sommes en train de faire de tout notre mieux pour les indemniser. Le processus de contrôle a commencé. Pour savoir qui est, parce que dans les cas, il y a aussi des gens qui s'y sont placés et sans pour autant être des déplacés de guerre. Maintenant, Fonarev est en train de regarder tout ça, de faire une liste pour savoir qui est un vrai déplacé et qui ne l'est pas, en fait, de pouvoir les indemniser et les réhabiliter. Et je pense d'ici un mois, au plus tard, au mois de janvier, les processus va commencer.
Justin Chabani, les auditeurs, il y a beaucoup de questions pour vous, madame la ministre. Il y a Justin Chabani qui nous écrit depuis la ville de Kindu au Maniema. Il estime que l'impunité reste un problème majeur en RDC, surtout pour les violations graves des droits humains. Madame la ministre, comment votre ministère travaille-t-il pour que les auteurs des violations des droits de l'homme, droits humains, soient traduits en justice?
Lorsqu'il y a une dénonciation de ce genre, moi-même, je prends les leads. Il y a des avocats qui travaillent avec nous, des membres de la société civile, qu'on envoie suivre les processus pour que les procès soient équitables et que tous ceux qui ont commis des infractions soient punis.
C'est tout ce que le ministère fait.
Oui, nous accompagnons les justiciables. Nous les accompagnons pour qu'ils puissent retrouver gain de cause. Parce que vous savez, madame, il y a cet accompagnement que le ministère doit faire pour être sûr que de part et d'autre, le procès a été équitable.
Alors, Kassim Libin Dixon estime qu'avec une police pas bien formée, pas bien payée, il est difficile de parler des droits de l'homme en RDC. C'est juste une utopie.
Et ce n'est pas une utopie, messieurs. C'est pas une utopie parce que les militaires qui sont là, vous savez, vous appelez des Kassindi, vous savez très bien que notre armée a été infiltrée. Il a été infiltré par des brassages, mixages, je ne sais pas quoi et quoi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nettoyer ça. De regarder qui est militaire, de vrais militaires et qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas un problème parce que tout le monde veut la paix et tout le monde est en train de se mettre pour que justice soit rendue à tout le monde.
La réalisation me signale qu'il y a un autre auditeur qui est en ligne. Il appelle depuis Isangi, je pense, hein, dans la province de la Tchopo. On va l'écouter.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC en janvier 2019, la situation des droits de l'homme n'a cessé de se détériorer. Bien que la constitution de la RDC, en son article 15 et l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantissent les droits à la vie et à l'intégrité physique et morale, des violations graves persistent. Enlèvement, détention arbitraire, torture, torture physique et psychologique, ainsi que répression des manifestations pacifiques sont courants. Ces abus se sont intensifiés malgré les promesses d'amélioration sous le mandat de Tshisekedi qui avait initialement engagé des réformes. Toutefois, les autorités ne fournissent vraiment pas beaucoup d'efforts allant dans le sens de garantir des réels progrès et des droits fondamentaux des citoyens sont régulièrement bafoués. La situation semble s'être aggravée, reflétant un écart grandissant entre les engagements constitutionnels et la réalité sur terrain.
Alors, c'est le point de vue de Gaston Bilambo depuis Isangi. Madame la ministre, quelle est votre vision pour l'avenir des droits de l'homme en RDC?
D'abord, je réponds à monsieur Gaston.
Gaston. Oui.
Je note votre réaction. C'était pas une question, c'était
un point de vue,
une opinion. Et je comprends, c'est normal que vous puissiez, vous avez le droit de vous exprimer, mais nous sommes en train de mettre en marche tous les efforts pour que le Congo soit un pays digne. Et le Congolais doit avoir sa place au sein de la restauration. Nous devons avoir une vie digne. C'est ça notre champ de bataille.
Alors, pour conclure cette émission, Madame la Ministre, votre vision pour l'avenir des droits de l'homme en RDC, vous pensez que ça va s'améliorer un jour?
Oui, Madame. Oui, ça va s'améliorer. C'est en train de s'améliorer. C'est en train de s'améliorer. Un jour, vous m'appellerez ici pour me féliciter.
En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Chantal Chambou, ministre des Droits Humains, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui l'a réalisé. Alain Goy était à la mise en onde derrière les caméras. Jonathan Fonani et Hervé Vocal. Je n'oublie pas Clément Chimanga, présentation et coordination. Kéline Couté, Martin Seboujangwe a supervisé ce magazine. Reste branché sur la fréquence de la paix.